Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech. Nous sommes le 8 septembre 2021 et on attaque tout de suite. Alors bonjour à tous, j'ai mis le casque parce que je ne l'avais pas mis et je n'avais pas changé la source audio, mais ah, là c'est bon. Bonjour à tous, comment ça va les gens? Vous avez vu le stream exceptionnel de Maryse tout à l'heure, mais je l'ai dégagé Maryse et maintenant c'est bien Guillaume hein, qui est là, Gameslash bien sûr, bonjour à tous. Salut Alf, salut Rachel, salut Oleg Impec, salut Samuel. The Gold Killer, toujours un plaisir de te voir, The Gold Killer. Ça régale, depuis les années. salut Super Chinoise, et bonjour à tous ceux qui vont nous rejoindre. Bienvenue dans le Mug Now Tech, votre matinale, entre guillemets, qui récapitule l'actualité tech, avec quand même, bah, voilà, la grosse annonce que on répète beaucoup, la reprise du mug officiel est le 21 septembre. Donc, notez bien ça, mardi 21 septembre à 8h, ça sera Jérôme qui reprendra le flambeau du Mug Now Tech matinal, et ceci pendant encore 9-10 mois jusqu'aux nouvelles vacances. C'est vrai que pour nous, les vacances, c'est un moyen de, voilà, de calmer un petit peu le rythme, parce que c'est vrai que, bon, surtout Jérôme, hein, Jérôme, il fait 3 mugs par semaine, où il se lève quand même à 6h du mat, et où il enchaîne direct pour préparer tous les articles, donc, voilà, c'est un petit peu éprouvant, surtout sur 10 mois d'affilée, donc c'est vrai que l'été nous permet de poser tout ça, de réfléchir un peu aussi à l'émission, voir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, voilà. Je suis en arrêt jusqu'au 20, avouez que vous l'avez fait exprès. Exactement, Alf. Mais tu nous écouteras dans le camion, Alf. Donc c'est bon. Salut Valente Beau, t'as enfin pu choper le direct. Eh bien écoute, bienvenue à toi. Re Aliug. Salut Onitnelav108. Bonjour, hein. Bienvenue Bigfoot. Il y a des pseudos que je ne connaissais pas. Voilà, ça régale. En parlant de petites annonces aussi, les subs sont moins chers en septembre. C'est le September. Pour des raisons un peu de micmac par rapport à Twitch et tout ça, Twitch a un peu fait baisser le prix des abonnements. Donc là, si vous nous soutenez, si vous voulez débloquer toutes les emotes, accéder au vide-grenier, eh bien c'est 20% moins cher, je crois. Donc n'hésitez pas. Carrément toujours à l'écoute sur la route. Voilà, donc offrez les subs. Bah écoutez, si vous voulez, n'hésitez pas. Merci Julien, merci beaucoup, 8e mois d'abonnement, merci à toi. Si vous voulez nous soutenir, on fait beaucoup de lives en plus maintenant. Hein, et même à la rentrée, hein, là on va avoir des gros lives qui vont arriver bientôt. Alors il y en a, je ne peux pas vous annoncer. Mais par contre, celui que je peux vous annoncer, c'est la keynote d'Apple. Je l'ai officialisé tout à l'heure sur Twitter. On va bien être là dans... Une semaine, non, 6 jours. Dans 6 jours tout pile, le 14 à 21h environ, après la keynote, nous serons là pour débriefer tout ça. Donc je serai accompagné, enfin on sera, voilà, Jérôme et moi pour tout ça, et pour la keynote, hein, pour l'actualité. On va en parler un petit peu dans ce mug, et puis voilà, ça va être cool. Avez-vous réussi à faire votre quota d'heure? Je dois t'avouer, Stéphane, qu'on n'a pas trop fait gaffe à ça. L'avantage pour nous, c'est que Twitch, c'est pas notre cœur de métier. Donc, voilà, l'avantage pour nous, c'est que YouTube est notre cœur de métier, hein, la moula est sur YouTube. Twitch est un complément, donc on dépend moins de Twitch que la plupart des personnes qui sont sur la plateforme. Qu'est-ce que j'ai raté? T'as rien raté, ça vient de commencer, Run Technology. Ça vient de commencer, voilà. Le vide-grenier, il est plein d'ailleurs. Ah oui, si vous voulez contribuer à la chaîne, le vide-grenier est plein. Merci, Aylissa. Pour ton 9e mois d'abonnement, un beau bébé, merci à toi. Donc ouais, non, on a rajouté plein de produits dans le vide-grenier. Je peux même vous les citer un peu et après on démarre le mug. Le vide-grenier, donc il faut être contributeur ou contributrice. Et vous avez accès à plein de produits qu'on vend, qu'on a sur Nowtech. Majoritairement des produits que moi j'ai acheté ou que Jérôme a acheté. Donc n'hésitez pas à aller voir. On a plein de trucs, on a du smartphone, on a des écouteurs... on a une Samsung Galaxy Tab S7 Plus, on a un petit iMac qu'on vraiment on brade en plus, hein, l'iMac on le brade beaucoup. Il y a une Apple Watch série 4, il y a un Pixel 4a, il y a OnePlus Nord, Il y a un Moto G50 et un Moto G100, ça fait des bons smartphones Android un petit peu milieu de gamme. Il y a du Honor, il y a du vieux Honor aussi, il y a un Google Home, il y a le OnePlus 7T Pro. Il y a du bon matos, il y a des écouteurs sans fil aussi. Donc il y a du bon matos, mais pour ça, il faut nous soutenir. Ben oui, parce que malheureusement, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, on aimerait bien, mais on est 7 à bosser sur Naotech, et être 7 à bosser sur Naotech, eh bien, il y a besoin de moula. Voilà, c'est la suite du Twitch Achan. Non, un peu, un petit peu. C'est mon Pixel 4a qui est avant, tu abandonnes le gang. Non, c'est juste que je suis repassé sur le Pixel 3a. Parce qu'en fait, je le trouve plus joli et j'ai pas besoin du 4a. Donc c'est tout. Voilà. Parce que j'avais le Pixel 3a et je préfère le faire vivre un petit peu. Et objectivement, objectivement, je le trouve un peu plus joli. Donc voilà. Voilà. Point d'exclamation, moula. Bien sûr. Je vous propose qu'on attaque tout de suite. On est dans le mug, hein. On n'est pas là pour parler produit, mais un petit peu quand même. On est surtout là pour vous parler de l'actu tech et c'est parti. Excusez-moi, je m'étais gouré de générique. On attaque bien sûr le Kawa, notre rubrique où on parle de l'actualité. J'avais lancé le générique de base. Ton Pixel 3 réparé? Non, c'est le Pixel 3, c'est celui de ma copine Onofweb. Moi, c'est le Pixel 3A. Mais non, Guillaume, maintenant le touche à chat, c'est Maryse. Exactement. Exactement, exactement. Dans l'actualité aujourd'hui, petit sommarion. Sommarion, c'est le sommaire que fait Marion, bien sûr. On va parler de TikTok qui est en train de surpasser YouTube. On va parler rapidement des rumeurs de la keynote du 14 septembre, donc dans 6 jours. On va parler de l'Allemagne qui fout un gros tacle à tous les constructeurs de smartphones. On va parler du Salvador et du Bitcoin. On va également continuer avec Microsoft Start, qui est l'espèce de nouvelle page d'accueil de Microsoft. Pourquoi pas, c'est assez joli ce qu'ils ont fait. Également, on va parler d'une expérience scientifique qui a montré que les humains ne survivraient pas plus de 4 ans sur Mars. Assez intéressant. Et on terminera avec la fameuse affaire Proton Mail, hein, l'affaire Proton Mail qui scandalise des militants, enfin plein de militants et de militantes, notamment les militants pour le climat, parce qu'il y a eu. Je vous raconte ça après. Voilà. Et je terminerai avec une petite cerise sur le croissant, un truc un peu rigolo par rapport au Galaxy Z Flip 3 que j'ai vu passer sur Reddit et que je trouve assez fun. Donc on en reparlera. Le Kawa à 17h, on est plutôt sur quelque chose de rafraîchissant, mais bon. Oui, mais. Moi, en vrai, tu dis ça, mais je bois un DK. Hop, bonjour à tous. On ne parle pas de Tipeee, de la disparition de Bruce d'y penser. Non, parce que c'est en train de full méga bad buzz, donc je pense que peut-être on en reparlera, mais quand tout ça se sera un petit peu calmé. Mais d'ailleurs, c'est pour ça, venez sur Patreon. C'est bien pour ça qu'on a un Patreon, nous. Voilà, venez sur Patreon, venez nous soutenir là-bas. Non, oui, on attend que tout le bordel se calme un petit peu, voilà, et on en reparlera peut-être la semaine prochaine. Donc TikTok, 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 TikTok. Comme disait un grand homme de la, c'est merde, de la Cité de la Peur, laissez la police faire son travail et quand nous aurons plus d'informations, nous vous en tiendrons bien sûr informés. Je crois pas que la citation soit exactement ça, mais voilà, c'est l'idée. Moi, je bois un café dont les grains sont issus du commerce équitable. Et tu as bien raison avec ta super machine à café, Alf. Cyril, qu'est-ce que tu dis, Cyrilus? Tu dis, je passe la moitié de ma journée à me demander s'il n'est pas trop tard pour un café, et l'autre moitié à me demander s'il n'est pas trop tôt pour l'alcool. Oui, après, attention, hein, l'alcool. Attention, attention, attention. Oui, c'est ça, écoutez, laissez la police faire son travail. Dès que j'aurai de plus amples informations, croyez bien que vous en serez les premiers informés. Exactement. Parlons un peu de TikTok. Vous adorez TikTok, hein, je n'en doute pas. Eh bien, moi, ça va. Non, TikTok, j'y suis allé dessus pendant 2-3 semaines, où j'ai un peu parcouru TikTok. Mais c'est vrai qu'il y a un côté quand même très addictif à TikTok, donc j'ai vite désinstallé et ça va. Enfin, TikTok, pour le coup, j'y vais vraiment jamais, quoi. En fait, j'y vais jamais. Même si je trouve que c'est assez intéressant, même au niveau business, hein, pas que au niveau divertissement, je trouve que c'est un réseau qui est assez cool. Mais bon, avec le boulot, il y a déjà Twitter, il y a déjà Instagram, donc ça fait beaucoup. Mais bref, TikTok continue son ascension, hein, assez fulgurante, et l'application de courtes vidéos virales vient de dépasser son grand rival YouTube. C'est pour ça que YouTube, hein, vous avez vu, hein, il balance de la moula pour les shorts, il balance de la moula pour les streamers. Ils sont en train de se réveiller un peu YouTube, hein. Ils étaient un peu en mode mastodonte, personne peut nous détrôner, et là en fait, bah si, en fait, des fois on croit qu'il y a des mastodontes, mais les choses, la roue tourne. Enfin, la roue tourne va tourner, comme disait un grand footballeur. Non, je me moque gentiment. Bref, selon un nouveau rapport d'App Annie commandé par la BBC, les utilisateurs anglais et américains passent désormais plus de temps sur TikTok que sur YouTube. YouTube reste tout de même le leader en termes d'utilisateurs, avec 2 milliards de visiteurs mensuels, contre 700 millions pour l'application chinoise. Mais c'est ouf parce qu'avec moins d'utilisateurs, il y a plus de temps passé sur TikTok. Côté addictif de TikTok y est pour quelque chose aussi, hein. YouTube pourrait bientôt être mis en danger. Le géant chinois a déjà commencé à étendre la durée maximale de ses vidéos, passant de 1 à 3 minutes, et pourrait même rallonger son format jusqu'à 5 minutes. Du côté de YouTube, on tente plutôt de copier ce qui a fait le succès de TikTok avec de courtes vidéos verticales, les shorts. Et c'est bien sûr à chier sur YouTube. C'est nul. C'est vraiment, les shorts sur YouTube, c'est nul. C'est mal intégré. C'est le problème de un peu mélanger plein de choses dans une même application, mais de mal le mélanger. Parce qu'en fait, sur Instagram, il y a quand même plein de types de formats qui sont mélangés, mais c'est pas trop mal sur Insta. Sur YouTube, c'est un bordel monstrueux. Les shorts sur YouTube, c'est dégueu. C'est dégueu. Ils auraient dû faire vraiment, je sais pas comment ils auraient pu faire, mais vraiment une catégorie shorts, quoi. Parce que là, il y a un espèce de mélange un peu bizarroïde, et moi, j'aime pas, quoi. Ils ont volé le concept sans l'adapter. Ouais, après, comme Instagram a volé les stories à Snapchat, hein. Alors que les shorts, c'est la vie. Par exemple, je suis au bureau en short, c'est parfait. T'as bien de la chance. Il y a encore plein d'entreprises où tu peux pas aller au bureau en short et c'est quand même un peu pénible. Je vois que des nanas montrant leur forme. En vrai, il n'y a pas que ça. En vrai, il n'y a vraiment pas que ça sur TikTok. Mais c'est vrai que sur TikTok, si tu es un homme, tu te retrouves très vite avec des nanas en train de faire des tenues. Des danses avec des petites tenues. Ce qui est un petit peu gênant aussi, soyons honnêtes. Mais c'est vrai que direct l'algo te met ce genre de contenu et c'est un petit peu pénible. On en avait déjà parlé dans le mug de ça. Mais c'est vrai que moi, par exemple, très rapidement, j'ai plutôt eu des trucs de... je sais que j'ai eu des trucs genre d'astuces de Corben, par exemple, que j'ai eu en suggestion. J'ai eu des astuces sur le Bitcoin et l'investissement. J'imagine que jeune homme, 28 ans, intéressé par la tech, égale personne qui veut investir. L'algorithme m'a pas mal spoté. Donc voilà quoi. C'est pas forcément intéressant de faire cette étude aussi vite. TikTok est nouveau pour beaucoup d'utilisateurs qui découvrent et qui y passent donc plus de temps que dans quelques mois. Moi, je suis pas d'accord avec toi, hein. Si autant de monde y passe autant de temps, c'est qu'il y a quand même un truc autour de ce réseau social, c'est qu'il y a une effervescence, il y a une émulsion. En général, quand les gens découvrent, si ça les fait chier vite, ils restent pas. Hein. Surtout dans notre société où on est quand même très dans l'immédiateté, dans le contenu très court, c'est plutôt une prouesse que TikTok marche autant avec aussi peu d'utilisateurs comparé à YouTube. Sur Insta, quelqu'un avait expliqué que la story en haut à gauche ou à droite était toujours la même. Ah ouais?
Ok.
La chaîne en... Oui, on a fait une vidéo là-dessus, ouais, tout à fait. YouTube, c'est les longues vidéos horizontales, TikTok, c'est les courtes vidéos verticales. Après, YouTube aurait très bien pu faire une bonne transition, mais ou bien mélanger les deux contenus, mais ils savent pas le faire. YouTube ne sait pas le faire. YouTube, c'est une entreprise tellement grosse qu'il doit y avoir 46 000 steps de validation. Et c'est pas la première fois qu'on critique l'immobilisme de YouTube. Rappelez-vous YouTube Gaming. Ils en ont parlé en plus dans Popcorn hier. Mais rappelez-vous YouTube Gaming, qui a été très mal marketé, qui était plus la plateforme axée sur les lives, mais qui en fait a disparu, quoi. Mais d'ailleurs, parce que le nom était nul. Pourquoi YouTube Gaming? Pourquoi vous appelez pas ça YouTube Live? Tout simplement. Et live.youtube.com, et il y a plein de streamers, et les gens se mettent dessus, quoi. Et sur YouTube Live, t'as pas de vidéo. Alors, t'as les replays qui sont en lien avec la chaîne, tu peux te démerder comme ça, mais t'as pas de vidéo. Là, le problème aussi des créateurs sur YouTube, c'est que si tu publies un short, ça se mélange à ton flux vidéo. Donc, en fait, ça te ruine ton business et ton flux, ton algorithme, c'est l'enfer, quoi. Hmm. ils savent pas adapter le... ouais, ils adaptent pas leur format. YouTube Kids, c'est toujours d'actualité, il me semble. C'est une bonne question. On va vérifier. YouTube Kids. Ouais, ça a l'air d'être encore là. Ah, hein. Ouais, il est joli le logo quand on arrive sur le site. Attendez, regardez, je vais vous montrer. Recharger la page. Ouais, c'est bon, le logo il apparaît. Attendez. Si je vous montre la page, regardez, c'est assez joli, je trouve. Ploc, 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 ploc. Ça, pour le coup, je pense que YouTube Kids, ils ont bien géré le truc. Mais en même temps, grosse pression aussi, hein. Bref. Facebook est à fond sur les enfants. Ah ouais? Ça m'étonne pour le coup. Ça m'étonne beaucoup. On se croirait à Amsterdam passé 22 heures. J'ai pas compris, un off-web. J'ai pas compris. Salut Guillaume, par contre, pour ces animations, mon ancien PC va planter en les diffusant. Quoi? Bah non, je vois pas pourquoi. YouTube Kids a toujours planté sur mon iPad, j'ai jamais compris pourquoi. Ah oui, c'est rigolo, tiens. T'as peut-être un truc chelou sur ton iPad, je sais pas. Bref, voilà, TikTok qui est en train de surpasser. D'ailleurs, si vous voulez des petits graphiques, ça c'est les heures de contenu, enfin c'est le nombre d'heures passées. Ah oui, non, c'est que au Royaume-Uni, mais c'est assez parlant quand même. Ça c'est le nombre d'heures en moyenne par utilisateur. Alors attendez, c'est quoi l'échelle? C'est par jour? Attends, monthly. Ah oui, par mois. Ok, 16 heures par mois. Donc l'échelle, c'est par mois. Ah oui, c'est les mois. Putain, bah oui, comme c'est inversé, c'est les mois. Ouais, je suis con. Non, attends. What? Qu'est-ce que c'est que ce graphique? 19, 20, 20, 20. Oui, non, c'est bien les mois. Ouais, c'est les mois, c'est les mois. Mais pourquoi il y a 12, 1, 12. Enfin, c'est pourquoi il y a le 1? Ah, c'est. Ok, c'est au 1er décembre. Ouais, non, c'est bon, ok. Mais vous voyez la différence de courbe entre les deux, quoi. C'est hallucinant. C'est hallucinant comme TikTok a vraiment grappillé en termes d'attention. Et en fait, la course aujourd'hui pour les plateformes comme ça, c'est votre attention. Parce que plus d'attention égale plus de pub, égale plus de moula. Tout simplement. Il n'y a rien de sorcier dans cette analyse-là. Les mesures de la Chine concernant les enfants et les jeux vidéo ont déjà été évoquées. Oui, la semaine dernière. Ont été... Ah, Stonks, exactement la petite nono, complètement Stonks. Sur Facebook Messenger Kids, les parents aiment le contrôle parental et le multi-device. Ouais, ok. C'est dingue la courbe. Ouais, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant pour le coup. Ça, c'est quoi, Monthly Hours per... Est-ce qu'il y a un autre graphique? Ah oui, ça, c'est aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, ça se tire un peu plus la bourre, hein, parce que je pense que YouTube est plus implanté. Mais quand même, si vous regardez, YouTube avait bien le dessus en 2019. Confinement, et TikTok est passé au-dessus. Ils tâtonnent un peu plus, mais passé au-dessus, quoi. Ils sont au-dessus. Voilà. Moi, j'ai Family Link, c'est bien, mais il ne faut pas trop regarder dans les détails. Ok. J'aurais pas cru que TikTok était aussi chronophage. Si, c'est chronophage TikTok. Je te dis, pour y avoir été 2-3 semaines, en fait, tu scrolles vite et tu deviens vite un peu un robot en scrollant TikTok, hein. C'est très bien foutu. C'est un réseau social qui est extrêmement bien foutu. D'ailleurs, réseau social est un bien grand mot. C'est un réseau bien fait. Mais en fait, là, comment dire? Vous, dans le chat, a priori, vous êtes peut-être moins TikTok, mais en fait, dans les collèges et même à l'école primaire, TikTok, c'est monstrueux. On s'en rend pas compte, nous, parce que là, je pense que vous avez, pour la majorité, plus de 18 ans, mais... C'est monstre. Est-ce qu'il y a des collégiens dans le chat? Tiens, s'il y a des collégiens dans le chat, ou des collégiennes, hein, peu importe, dites-nous dans le chat, là, si vous voyez beaucoup de TikTok autour de vous, j'imagine que complètement. Hein. Ouais, Frisman31. On est d'accord qu'aujourd'hui, dans vos collèges, clairement, c'est. Enfin, c'est beaucoup plus rare les gens qui disent, tiens, regarde la dernière vidéo YouTube, mais plus, tiens, regarde le dernier TikTok de quelqu'un, quoi. Je suis en troisième, je suis au lycée en seconde, TikTok est hyper fréquent. Friesman, ouais, bah ouais, vous êtes d'accord avec moi. Bah ouais, mais ça m'étonne pas. Bon, après, c'est pas scientifiquement, là, vous êtes 3-4 à dire ça, donc ça n'a pas une valeur scientifique très forte, mais ça se voit, quoi. Clairement, ça se voit, quoi. Lycéen, oui, effectivement, beaucoup de TikTok et jeux sur mobile. Ça aussi, hein, les jeux sur mobile, moi, c'est pas ma génération, mais la génération qui est au collège aujourd'hui, ils jouent. Que sur mobile quasiment. Majoritairement, les consoles de salon, c'est plus leur came. Beaucoup moins, on va dire. La Switch, peut-être. Je ne vais jamais sur TikTok, mais mes filles l'ont sur leur iPhone. Guillaume, comment sait-on si un article de Vidgrenier est déjà vendu? Ah bah, s'il est vendu, il a disparu, The Gold Killer. Donc si tu vois les articles, c'est que c'est pas vendu. Il y a juste la souris Logitech, là, ergonomique, qui, elle, est en cours de vente. Niveau âge des users, Facebook, Insta, TikTok. Oui, non, mais c'est complètement ça, Aurélien. On est des boomers à en devenir. Ah bah ça, oui, bien sûr. Chawef, tu dis, je viens de passer en seconde, et oui, TikTok monopolise les discussions et les tendances. Lycéen, oui, effectivement. Oui, donc ça, je l'ai lu. Moi, je vois TikTok comme des machines à sous au casino, le même effet sur le cerveau. Bah, on en a parlé dans une vidéo. C'est le même effet sur que les machines à sous. Avec, heureusement, le fait que ça te fait juste perdre du temps, pas de l'argent. Parce que les machines à sous peuvent te foutre dans une merde monstrueuse niveau thune, quoi. La génération 2002 joue beaucoup sur mobile, ils ont 19 ans. Ah, ça me fait bizarre quand je lis ça. Mais oui, c'est ça, ouais. Go, les futures maisons de retraite spéciales gaming. Mais j'en suis convaincu. C'est où qu'on peut voir le vide-grenier? Alf, il faut que tu sois contributeur. Je crois que tu l'es. Sur Patreon. Oui, tu l'es sur Patreon. Sur le Discord. Sur le Discord, tu as un channel vide-grenier. En parlant de machine à sous, la dernière vidéo de Roi des Rats est très bien faite. Elle est super. Roi des Rats est trop bien. Trop fort. Il est très très bien. On va avancer, mesdames et messieurs. On va avancer. Nous allons parler de la keynote. Assez rapidement. Parce que de toute façon, je pense que du Apple, vous allez en bouffer dans les prochaines semaines. Donc. Voilà, je ne vais pas vous prendre trop de temps là-dessus. Petit récap très rapide. On a fait une vidéo sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc, petit récap très rapide. Il y aura 4 iPhones qui vont être annoncés. iPhone 13 mini, iPhone 13 tout court, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Donc, si vous voulez avoir un peu plus de détails sur les spécificités de chaque téléphone, il y a une vidéo sur la chaîne. Mais surtout, il va y avoir potentiellement l'Apple Watch Series 7 et les AirPods 3 qui vont être annoncés. AirPods Pro, je sais pas. Je sais pas du tout. L'Apple Watch Series 7 qui va être assez jolie, assez élégante. Alors, ce screenshot lui rend pas très honneur, mais moi, j'ai vu des screenshots un petit peu plus flatteurs de l'Apple Watch Series 7. Donc, pourquoi pas, même si moi, je pense que acheter une Apple Watch plein pot à sa sortie, c'est pas le plus rentable, parce qu'en vrai, les fonctionnalités qui sont ajoutées chaque année sont pas nécessaires. Enfin, voilà, à moins d'être vraiment très grand sportif, voilà, ou très grande sportive, globalement, je suis pas très convaincu. Donc, ça va être un design à bord plein, hein. Ça va reprendre un peu le design industriel de l'iPhone 12, et voilà. La nouvelle gamme pourrait obliger les propriétaires actuels d'Apple Watch à acheter de nouveaux bracelets. Ça ferait quand même bien chier, mais bon. Des améliorations sur la santé. Bon, de toute façon, ça, on verra hein, la semaine prochaine, et les AirPods 3, alors il y aurait peut-être un petit leak de leur design, un look un peu plus moderne, je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, ils ont l'air un petit peu moins longs aussi, pourquoi pas, voilà, et apparemment les AirPods 3 adopteront le même design que les AirPods Pro, avec 3 embouts d'oreilles interchangeables. L'audio spatial devrait également être disponible, mais la suppression de bruit resterait exclusive aux AirPods Pro. Il y a aussi une rumeur qui dit qu'il y aurait un iPad mini avec le processeur A15, peut-être. J'avoue que là, un iPad mini, vous savez, en plus avec le nouveau design, donc ça peut être quand même très sympa d'avoir un iPad mini comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Par contre, oui, les MacBooks, ça sera pas cette keynote. A priori, ça sera la keynote du mois d'octobre. Voilà. Bref, c'est que de la spéculation. Après, il y a des trucs qui sont sûrs, quasiment sûrs, genre à 99%, qu'il y aura bien un iPhone 13 mini, un iPhone 13, un iPhone 13 Pro, un iPhone 13 Pro Max. Ça, clairement, il y a peu de doutes. Pareil, Apple Watch Series 7, il y a peu de doutes. Et les AirPods 3, il y a eu aussi plein de leaks, plein de rumeurs. Donc, normalement, on aura bien des AirPods 3. Voilà. Voilà, voilà. Donc, on vous couvrira tout ça. Mettez un rendez-vous dans vos agendas, là. Hop. Sur Twitch, la semaine prochaine, donc mardi 14, Nowtech, Twitch, 21h. Voilà. Merci Kiblack pour ton Prime. Merci beaucoup. J'ai acheté récemment l'Apple Watch 6 pour ma santé car j'avais une montre connectée pas chère qui me donnait des valeurs fausses. Ouais, je comprends, ouais. Pas de gros changement par rapport au 12. Du coup, le 12 va baisser ou le prix va rester le même. Le 12 va forcément baisser quand il y a un nouvel iPhone. Mais le 12, tu le trouves déjà à des prix complètement bradés aujourd'hui, hein. Je sais que l'iPhone 12, il est à un prix en ce moment. Il baisse beaucoup. L'iPhone 12 mini aussi, c'est hallucinant. L'iPhone 12, là, tu l'as. Genre, le mini, tu l'as à 666 euros. C'est le démon! Non, on va le trouver à 600 balles, l'iPhone 12 mini. Et l'iPhone 12, là, il est à 850. Mais franchement, je pense que vous l'aurez très vite à moins de 800, sans aucun problème. Voire 700. En occasion, il est à 750. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Voili voilou. Je dois vendre mon iPhone 11 Pro et 12 mini. Je suis dans la merde niveau de timing. Ah oui! Ah ouais, bouge-toi les fesses, ouais. Clairement. On va avoir une vague d'iPhone 12 sur Back Market dès la sortie du 13. Ouais. Autant prendre un Xiaomi équivalent à 100 euros. Je suis pas du tout d'accord. Je sais qu'à chaque fois, on a ce genre de commentaires. Non, parce que niveau vie privée, Xiaomi, c'est pire qu'Apple. Apple sont pas parfaits. On l'a vu en plus avec les photos scannées, c'est chiant. Et puis non, et puis y a quand même des gros avantages à avoir iOS aussi. Hein. Y a des trucs très sympas sur iOS. Enfin, moi, j'aime les deux. Donc de toute façon, le débat pour moi, il est caduque, parce que moi j'aime les deux systèmes d'exploitation. D'ailleurs, actuellement, dans mes mains, bonjour à tous, en fait, j'ai l'iPhone 12 mini et le Pixel 3. Donc clairement, il n'y a pas plus les deux mondes en même temps. Mais il n'empêche que non, si quelqu'un veut une pomme, tu peux pas lui proposer une poire. La personne, elle veut une pomme. Même si la poire, pour toi, tu préfères le goût, et que nutritionnellement, elle est peut-être meilleure. Bah, il y a des gens, ils veulent une pomme, tu vois. Donc, en fait, tu pourras jamais aller contre ça. Et surtout, objectivement, les iPhones, c'est robuste. Nous, on en a testé beaucoup sur la chaîne. Certains nous traitent d'Apple fanboy, mais c'est des produits robustes, les iPhones. Surtout depuis 3-4 ans, ils font vraiment des téléphones qui tiennent bien le coup, qui sont mis à jour longtemps, quoi. iOS, un écosystème incroyable, je peux plus m'en passer. AirDrop. Typiquement, AirDrop, il y a des solutions sur Android, mais elles sont encore à la traîne, elles sont pas tout le temps implémentées, enfin c'est un peu le bordel quoi. Est-ce que tu as entendu parler du brick sur certains Pixel 3? Ouais, j'ai entendu parler de ça, ça fout un peu les glandes honnêtement, j'espère que ma copine passera au travers, parce qu'elle a un Pixel 3. Apple Music est meilleur sur Android que sur iOS, oui c'est vrai, ça c'est vrai Run Technology, pour l'avoir testé. Je suis repassé sur Spotify, là, parce qu'honnêtement. Mais pour l'avoir testé, Apple Music est mieux sur Android. Je suis assez d'accord. Assez étonnamment. Qu'est-ce que tu dis, monsieur papa? Ah oui, tu réagissais, ouais. Xiaomi est génial, mais je resterai sur ma philosophie d'une ROM custom. Ouais. Chacun son choix et ses usages différents. Ben évidemment, voilà. Voili, voilou. Et puis surtout, non, bon, bref, on va pas refaire le débat. Donc voilà, donc rendez-vous mardi prochain. On va être Jérôme et moi pour vous faire une grosse soirée. Donc ça va être cool. Et surtout, 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 on est en train d'organiser avec Hardisk une soirée un peu sympa où on va essayer d'avoir un gros roster de streamers, genre plein de streamers différents, qui vont essayer de couvrir la soirée de A à Z, c'est-à-dire des streamers qui vont commencer avant la keynote. Hardis va streamer pendant la keynote et nous on streamera Naotech après la keynote. Donc chacun aura un rôle un peu. Les premiers streamers, on ne sait pas encore qui ça va être. On est en train de réfléchir à des gens pour ça. Les premiers vont un peu parler des rumeurs, de la spéculation, passer un bon moment, détente, un peu chill. S'arrête sur Hardisk. Hardisk qui va commenter en direct la keynote. S'arrête sur Naotech et nous on débriefe, on dit ce qu'on en pense, un peu à froid. Voilà. Voilà. Donc ça va être assez sympa. Donc suivez-nous sur Twitter, sur les réseaux. De toute façon, vous ne pourrez pas le louper si vous nous suivez sur Discord aussi. Hein. Rejoignez le Discord. Normalement, le lien fonctionne. Voilà. Rejoignez-nous sur Discord. Parce que même au pire, même si vous n'êtes pas contributeur ou contributrice, vous avez les actus Naotech. Donc au pire, venez sur Discord juste pour les actus. Comme ça, vous serez notifié des choses. Ça prend 2 secondes. Hein. Vraiment, rejoindre le serveur Naotech, ça prend 2 secondes. Donc n'hésitez pas à venir. Si on veut annuler le renouvellement auto sur Patreon, faut annuler l'abonnement. Je sais pas du tout, The Gold Killer. Je sais pas du tout. Je trouve que les commentaires après la keynote, c'est beaucoup plus pertinent. Steven, ça dépend des personnes. Il y a des gens qui préfèrent avant, il y a des gens qui aiment bien pendant. Ça dépend. Ça dépend, ça dépend. On va avancer, on va continuer de parler un peu de smartphone en parlant de l'Allemagne. L'Allemagne qui veut que vos smartphones durent au moins 7 ans. 7 ans, vous avez bien entendu, 7 ans. Le gouvernement fédéral allemand envisage de mettre fin à l'idée qu'un smartphone n'a une durée de vie que de quelques années. Moi je trouve ça très bien. Pour ce faire, il envisage d'appliquer une réglementation environnementale stricte afin que les fabricants de smartphones soient tenus de proposer des pièces de rechange et des mises à jour de sécurité pendant 7 ans. Alors que la Commission européenne souhaite que les fabricants proposent des mises à jour logicielles et des pièces de rechange pour les smartphones pendant 5 ans, le gouvernement fédéral allemand veut aller plus loin. Pourquoi pas? 7 ans, c'est vrai que ça paraît beaucoup dans l'imaginaire collectif, mais d'un autre côté, c'est bien. Enfin, c'est normal, quoi. Je trouve ça bien. L'Allemagne souhaite que la Commission européenne prenne en charge jusqu'à 7 ans les mises à jour et les pièces de rechange, tant pour les smartphones que pour les tablettes. En outre, ces pièces de rechange devraient être disponibles à un prix raisonnable, obligeant les fabricants à publier les prix des pièces de rechange et à ne pas augmenter ces prix. Voilà. L'Allemagne soutient la Commission européenne pour des règles d'éco-conception strictes qui incluraient des batteries de longue durée, ainsi que des étiquettes énergétiques et un score de réparabilité. Mais, évidemment, les fabricants estiment que cela va trop loin. Le Digital Europe Industry Association, pardon, l'association, donc la Digital Europe Industry Association, un organisme représentant de grands noms comme Apple, Samsung et Huawei, affirme que 3 ans de mise à jour de sécurité et 2 ans de mise à jour du système d'exploitation sont plus que suffisants. Allô, la planète! Elle est en train de crever! Et on va crever! L'association estime également qu'il est suffisant pour les fabricants de proposer des batteries et des écrans, les pièces les plus sujettes aux pannes des appareils modernes, et de ne pas avoir à mettre à disposition d'autres composants parce qu'ils tombent rarement en panne. Bref, ça va se battre! Mais je trouve ça très bien. À titre personnel, je trouve ça très bien. Voilà, on est dans une urgence écologique et... En fait, ça me paraît être la bonne réponse, 7 ans. Et alors, par contre, le seul truc, moi, un des problèmes que je vois avec 7 ans, c'est que si vous êtes un petit acteur qui se lance dans le marché du smartphone, typiquement Fairphone, même si c'est pas peut-être le meilleur exemple, mais économiquement parlant, c'est par contre plus difficile pour vous, comparé à Apple, de mettre à jour très longtemps. Donc je me demande si ces mesures devraient pas être accompagnées de mesures, bah, justement, d'accompagnement. Peut-être pour les plus petites structures, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à une certaine somme, enfin les bénéfices peut-être. Je pense qu'il y a un travail à faire aussi à ce niveau-là. Parce qu'il ne faut pas que ça tue non plus, enfin que ça rajoute une contrainte financière supplémentaire, surtout pour des petits acteurs. Je pense, hein, y a une réflexion à avoir là-dessus, parce que c'est plus facile de se plier à ces réglementations quand t'es un Samsung ou un Apple. Mais quand t'es Fairphone, encore une fois... c'est plus délicat financièrement d'avoir des gens qui maintiennent à jour 7 ans un système d'exploitation parce qu'on le sait, un smartphone au bout de 7 ans il se vend plus quoi. Donc voilà, il y a des réflexions à avoir là-dessus. Interview de la CTO de Fairphone dans le podcast de Tristan Nitoy. Ah cool, parce que leur demander 7 ans quand aujourd'hui tu ne peux pas avoir les pièces originales, c'est n'importe quoi, ouais. Toujours plus, c'est jamais assez pour ces gens, pourquoi pas 20 ans. Ah, je comprends pas pourquoi vous râlez. Je comprends pas pourquoi vous râlez, parce que c'est, en fait, c'est que positif pour vous, et pour, enfin, pour nous tous. Donc je comprends pas. C'est quoi, 7 ans, ça me paraît pas déconnant. T'as quand même beaucoup d'ordinateurs portables aujourd'hui qui peuvent très bien vivre 7 ans. Pourquoi pas les smartphones? Surtout qu'aujourd'hui, tu prends un smartphone... Ok, tiens, qu'est-ce qui est sorti à 7 ans? L'iPhone 6S, il est sorti quand? L'iPhone 6S, il est sorti en 2015. On est à 6 ans pour l'iPhone 6S. Donc tu vois, c'est pas déconnant d'avoir un iPhone 6S encore mis à jour, par exemple. Qu'est-ce qui est sorti à... L'iPhone 6S, c'était quoi? C'était le Galaxy S7, non, en même temps? Tu vois, enfin, le Galaxy S7, il est complètement capable, je pense. 2016, ouais. Il est complètement capable de faire tourner un Android moderne aujourd'hui. Donc moi, ça me paraît pas déconnant. Mais fournir 7 ans du suivi, ok, mais tu peux pas trouver de la pièce originale hors Apple Store, c'est pas intéressant. Mais justement, monsieur papa, c'est ce que explique l'article. C'est que tu as un maintien 7 ans avec avec les pièces fournies, enfin avec les pièces qui sont disponibles. Non, moi ça me paraît pas complètement déconnant. Et encore une fois, enfin, faut le rappeler, hein, mais il y a une urgence climatique assez monstrueuse. Et il y a des mesures qu'on va prendre dans les 20-30 ans qui vont plus piquer que ça pour les entreprises. Mais beaucoup plus. Ça, je pense que c'est ridicule comparé à certaines mesures qu'on prendra. 7 ans, c'est pas long à l'échelle de la planète pour économiser les ressources. Moi, je le vois comme ça. Faudrait commencer par trouver de réelles solutions de recyclage des batteries. C'est un bon commentaire, Alf, je suis d'accord. J'ai un PC portable de 2007 qui tourne toujours OK sur Windows 10. On est d'accord. C'est extrêmement handicapant pour les industriels. Je suis persuadé que ça handicapera le progrès technologique. C'est pour ça que je dis qu'il y a peut-être des mesures d'accompagnement à avoir. Mais par exemple, je pense qu'on est quand même tous d'accord dans le chat pour se dire que 3 ans de mise à jour de sécurité et 2 ans de mise à jour du système, c'est trop peu. Surtout quand il n'y a rien qui l'empêche vraiment techniquement. Ça, par contre, je pense qu'on est d'accord pour se dire que c'est trop peu, quoi. C'est beaucoup trop peu. Voilà. Le 5 ans est un gros minimum pour moi, je pense. C'est pour ça que je suis passé chez Apple, le suivi Android est horrible. Ouais. Merci Lineage, ouais, c'est fou, Lineage, ça, c'est vraiment très bien. Bruxelles veut la... Vous avez vu, j'ai dit Bruxelles. Je suis pas gouré. Bruxelles veut la fin des moteurs thermiques en 2035. Moi, je pense que c'est un doux rêve. Ah, ça va être compliqué, ouais. Il pourrait mettre une limite basée sur le prix. Bah non, 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 je pense pas non plus, tu vois. Si tu commences à faire des exceptions, c'est compliqué, quoi. 100% d'accord, j'en ai gros de pas pouvoir aller sur Android 12. Bah ouais, c'est quand même chiant, quoi. Les pièces détachées pour les appareils de réfrigération doivent être disponibles pendant 7 ans minimum après l'achat. Elles doivent être disponibles pendant 10 ans pour les lave-vaisselle, les sèche-linges et les lave... Ah, t'as dit deux fois lave-vaisselle. Je pense pour les... Ah non, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle. Pardon, excuse-moi, Montana. Bah merci pour l'info. Je savais pas. Mais comme quoi, si c'est déjà dans le monde de la... Merde, comment on dit? Ah, j'ai un trou. De l'électroménager. Pourquoi pas sur les smartphones? Projet Treble décevant. Ouais, électroménager. Ouais, j'ai galéré, mais c'est bon. Ça évitera l'augmentation artificielle des modèles, c'est plutôt bien. Ouais, moi je trouve c'est bien, quoi. Et d'ailleurs, oui, pour reparler du débat, bah, c'est vrai qu'Apple, l'iPhone 6S, il est encore mis à jour, quoi. Sur Android, un smartphone qui a 6 ans encore mis à jour, je crois qu'il y a certains Xiaomi, je crois. Et encore, je suis pas sûr. 6 ans, je suis pas sûr du tout. Peut-être dans le chat, vous en connaissez. Attention, hein, sans bidouille. Trichez pas. On parle pas de bidouiller des trucs, sinon c'est trop simple. De plus, tout ça à un coup, c'est comme toujours les consommateurs qui payeront. Bah, pas forcément, Stéphane, je vois pas pourquoi. Au contraire, Stéphane, je suis pas d'accord avec toi, parce que si tu gardes ton smartphone plus longtemps, pourquoi tu payerais? Peut-être que ça augmentera un peu le prix à l'achat, mais si ton smartphone il est encore mis à jour, pourquoi tu paierais plus? Tu vois? Les pixels, ça va encore. Ouais, bof, hein. Pixels, c'est 3 ans de mise à jour, hein, garanti par Google. C'est pas énorme. Bref, avançons. Mais c'est intéressant de débattre de ça avec vous. Moi, je trouve ça bien. Je trouve ça assez positif. Avançons et parlons du Salvador. Pourquoi le Salvador fait le pari du Bitcoin? Le plus petit pays d'Amérique latine est devenu le premier pays au monde à autoriser le Bitcoin comme monnaie légale. Je crois qu'on en avait déjà parlé dans le mug en disant que le Salvador réfléchissait à ça. Regardez l'image, c'est hallucinant. C'est vrai que ça fait bizarre de voir ça. Une image qui dit Aceptamos Bitcoin. Incroyable quand même. Incroyable, incroyable. Putain, quel plaisir l'espagnol, j'arrive à lire, j'arrive à comprendre. Quel plaisir. Bref, ce mardi, le plus petit État d'Amérique centrale est devenu le premier pays au monde à donner au Bitcoin le statut de monnaie légale, pardon, au même titre que le dollar américain qui a cour légale dans le pays depuis 2001. Malgré l'opposition d'une partie de la population, selon des sondages, et des institutions financières mondiales comme la Banque mondiale ou le FMI, le président Nayib Bukele est allé au bout de ses idées. Alors c'est hyper intéressant, je trouve cet article. Et le fait qu'il y ait ce système de paiement qui soit accepté, je trouve ça incroyable. Désormais, chaque commerçant du pays sera dans l'obligation d'accepter les bitcoins comme moyen de paiement. Les Salvadoriens auront aussi la possibilité de payer leurs impôts en bitcoin. Incroyable. Ça veut dire que, putain, c'est ouf, ça veut dire que à 3 jours près, tu peux avoir de la chance et payer tes impôts moins cher. Non, bref, c'est assez incroyable. Pour faciliter le lancement, le gouvernement va distribuer 30$ en bitcoin à tous les habitants, accessibles directement sur l'application Chibo, qui fait office de portefeuille numérique. Vous vous rappelez, à l'époque aussi, il y avait le... Quand il y avait eu l'euro, je crois qu'on avait tout le monde avait eu 15 euros, je crois. Il n'y avait pas une connerie comme ça, où tous les Européens avaient reçu un certain nombre d'euros. 30$ pour le Salvador, ce n'est pas rien, cela correspond à 1,5% du PIB. Cela ressemble beaucoup à un plan de relance, juge Grégory Vanel, économiste à l'école de management de Grenoble. Le Salvador prévoit aussi d'installer 1500 machines permettant d'échanger des dollars contre des bitcoins. C'est pas anodin, des dollars. Notez bien le dollar, vous allez comprendre après. 200 ont déjà été déployés dans le pays. Aujourd'hui, il y a 15 000 machines de ce type dans le monde. Le gouvernement envisage d'en créer à lui seul 10%. Cela semble assez irréaliste, estime encore Grégory Vanel. Alors après, il y a le problème de la volatilité, bien sûr. La volatilité n'est un problème que si le Bitcoin est peu adopté, note Claire Balva, cofondatrice de la Blockchain Partner, blablabla. Mais oui, non, il y a un problème, effectivement, où c'est la population qui s'inquiétait de la volatilité du Bitcoin. Même si c'est vrai que lisser à long terme, c'est moins violent. Mais il n'empêche que pour un truc où tu achètes ton pain, la volatilité, le fait que ça fasse des zigzags, ça peut être un peu embêtant. Enfin, des pics et des descentes. Le Salvador veut se dédollariser. Bah, c'est un peu l'idée. Pourquoi le Salvador fait-il ça? C'est là où je trouve que c'est intéressant et ça, c'est un peu de géopolitique. Donc le président met en avant deux arguments pour justifier la légalisation du Bitcoin. Le premier, c'est celui de la baisse des coûts de transaction. Le chef d'État espère faciliter la vie des émigrés salvadoriens qui transfèrent chaque année plus de 20% du PIB du pays depuis les États-Unis. Mais a priori, c'est un argument bancal parce que les coûts de transaction sont déjà très faibles. Le second argument consiste en l'accélération de la transition numérique. Près de 70% des salvadoriens ne disposent pas de compte bancaire. Mais pas l'argument principal, en fait. Enfin, c'est pas la raison principale. La raison principale, c'est l'indépendance du Salvador vis-à-vis des États-Unis. L'intérêt est de limiter la dépendance au dollar et de s'affranchir de la tutelle américaine. C'est ça la raison, la véritable raison. Parce que c'est un problème de souveraineté, complètement. Voilà. Y a un peu la symbolique de la Ligue des pays sud-américains contre les États-Unis. Cuba, hein, qu'on connaît bien pour son embargo. Cuba souhaite, par exemple, contourner l'embargo américain. Hein. Voilou. Après, il y a tout un truc sur l'impact sur les cryptos. Mais d'ailleurs, le Bitcoin a énormément baissé depuis l'annonce du Salvador, hein, qui fait le pari du Bitcoin. Bref, voilà, c'est assez intéressant, je trouve. On verra ce que ça donne. Bon, après, moi, vous connaissez mon avis sur le Bitcoin. Hein, je suis pas très fan de cette monnaie, monnaie très spéculative, pas très bonne pour la planète en plus. Donc voilà. Par contre, si les cryptos deviennent les monnaies principales, il faudra les fixer sur une valeur, sinon ça va être le bordel. T'as des cryptos bloqués sur des valeurs. C'est drôle le décalage entre l'affiche toute pourrie et l'utilisation d'une techno avant-gardiste. Bah, il faut dire qu'il a une monnaie de singe, donc il s'adapte. De plus, ça lui permet de faire un doigt d'honneur aux US. Bah oui, non, mais c'est clairement ça. C'est clairement ça. Tu pouvais juste acheter en avance un petit paquet collector, j'en ai encore un ou deux. Ah, incroyable. Tu les achetais les 15 euros. D'accord, t'achetais les 15 euros, ok. C'était 100 francs 15 euros, ouais, c'était ça. Hein. C'est la première fois que je garde mon... Ah oui, non, ça c'était sur le... C'est sur le débat d'avant. Les stable coins, ouais, tout à fait. Bref, assez intéressant. Voilà, on verra ce que ça donne. Hein. De toute façon, je pense qu'on en reparlera dans le mug, voir l'adoption du Bitcoin par le Salvador. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'ils vont faire un retour en arrière? En tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est que le président a l'air assez, technophile, quoi. Il a l'air de vraiment vouloir améliorer les choses. Nayib Bukele, je sais pas du tout. Ouais, je le connais pas du tout. J'avoue que la géopolitique du Salvador, je la connais pas très très bien. Sauf le fait qu'effectivement, ils étaient quand même très liés au dollar et très liés aux États-Unis. Donc bref, intéressant. Intéressant. La Chine a mis un gros stop au Bitcoin avec le ban Bitcoin en Chine. Ouais, mais bon, après... c'est pas... La Chine est très riche et... Et d'une certaine façon, elle a un soft power sur le monde, mais il y a des limites au soft power, clairement. Le Bitcoin est indispensable sur le dark web. Ah, ça. Le Bitcoin est un rêve de libertarien. Un rêve un peu trucidé, quand même. Hein. Soyons honnêtes, hein, le Bitcoin est... Maintenant, on l'a vu, hein, c'est plus une monnaie d'anarchiste. Et quand je dis anarchiste, c'est pas péjoratif. Hein. Clairement, on est loin d'une monnaie anarchiste hein, sur le Bitcoin. Il me semble que les transactions en Bitcoin sont lentes avec la confirmation des blocs. Bah oui, ça c'est vrai que ça m'a étonné, Nathan. Ça m'a un peu étonné, mais je crois qu'il y a eu des moyens d'améliorer la vitesse des transactions. La Chine veut conserver sa souveraineté. Ah oui, non mais on est bien, complètement. On va avancer, on va parler de Microsoft Start, hein, le nouveau flux d'actualité. Microsoft veut se réinventer en lançant un nouveau flux d'actualité personnalisé. La firme de Redmond signe donc l'arrêt de mort de ses deux plateformes déjà existantes, MSN News, putain, c'est hallucinant que ça existe encore en 2021, et Microsoft News au profit de son nouveau service unifié Microsoft Start. Et je peux vous montrer ce que ça donne, parce que le site est disponible. C'est assez joli, très honnêtement, c'est assez joli. Maintenant, est-ce que ça va être adopté? Je ne sais pas. Mais c'est plutôt classe. Il y a un petit côté un petit peu Windows Phone, hein, avec les espèces de tuiles, mais les tuiles modernisées avec des bords arrondis. En fait, ça fait très Windows 11. Hein. J'ai l'impression qu'ils ont un nouveau design qu'ils sont en train d'adopter un peu partout. Il y a un côté très Windows 10, 11. Ouais, hein, MSN, ça fait vieux. Hein. MSN Premium est toujours disponible pour 100€ par an. Sérieux? Incroyable. MSN, le site web, c'est un gros truc. Non, je sais que c'est encore beaucoup utilisé. En fait, c'est la page d'accueil de beaucoup de gens. Mais voilà, en gros. Bon, ça a l'air d'être très people, hein, quand même. Hein. C'est hallucinant. Mon Dieu. Putain, le nombre de trucs people. Oh là 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 là. Bref. Bref. Donc, vous voyez un petit peu la gueule que ça a avec un widget météo. Les trucs, on peut les... Normalement, on peut les décaler. Alors là, je sais pas. Personnaliser. Ah oui, c'est ça. On peut rajouter des trucs... par exemple politique, let's go, parfait, vous suivez maintenant et vous revenez à l'accueil, il y a un algorithme qui va vous présenter les choses, pas intéressé, masquer la chaîne météo, pas intéressé, enfin voilà, vous pouvez personnaliser des choses, si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller voir, mais voilà, petite modernisation de Microsoft Start, avec de l'intelligence artificielle, avec du machine learning, de la météo, les scores des dernières grandes rencontres sportives, les cours de la bourse. Voilà, ça s'appelle Microsoft Start. Ça a été annoncé. Voilà, voilà. C'est un peu une brève, hein. J'ai pas grand-chose à rajouter de plus. Quand même content que Microsoft unifie un peu tout ça et arrête d'appeler des trucs MSN News, Microsoft News. Enfin, voilà, ils ont l'air d'avoir un peu tout mélangé. Mode sombre ou rien. Ah, est-ce qu'il y a un mode sombre? J'espère quand même. Oh, y a pas de mode sombre. Aïe, aïe, aïe. Ah non, il n'y a pas de mode sombre. Hein. Oh, ça va pas du tout, ça. Ça va vraiment pas du tout, ça. Non. Mes sauvegardes. Paramètres de l'expérience. Ah, attends. Je suis obligé de mettre un mode sombre. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas. C'est triste. Les widgets Windows 11 sont sombres. Ok. Bah, j'ai pas testé Windows 11, hein, je dois bien vous avouer. J'ai pas testé... Les espaces sont sûrement vendus aux médias. Ah oui, non, mais complètement. Hein. Complètement, complètement. Qui est passé à Windows 11? Ah bah tiens, d'ailleurs, petit sondage. Est-ce qu'il y en a qui sont sur Windows 11? Tiens. J'avoue que je suis curieux. Windows 11. J'y suis déjà. Nope. Voilà, voyons voir. Est-ce qu'il y a des gens qui sont sur Windows 11? Pas des gens qui ont testé, des gens qui vraiment y sont déjà, quoi. Hop. Je pense que la majorité, vous n'y êtes pas. Ah, Guillaume Brogy, ouais, t'y es, ok. Vous êtes t'es sur le channel dev, ok. Ah, putain, vous êtes quand même 5. Très bon refresh de l'interface, vivement la bascule sur CoreOS. Je verrai quand ça sera nécessaire. Ils m'ont perdu avec les TPM, j'attends. Ouais, t'as raison. Hein. T'as bien raison. Bon, vous êtes une vingtaine de pourcents, gros. Vous êtes 7, là, à y être déjà. Ok. Bah, on verra après, c'est pas sûr, hein, monsieur papa, que ce fameux truc de un Windows sur deux est bien soit respecté. On verra. J'attends la sortie officielle, mais t'as bien raison, Nectarine. T'as bien raison. On va avancer et on va parler de Mars. Et oui. Et oui, et oui. Les humains pourraient mourir, passer 4 ans sur Mars. C'est un peu problématique, je sais pas ce que vous en pensez. Il y a un petit souci. Bref. La Chine envisage une présence permanente sur Mars, la NASA y songe également et procède déjà à quelques tests grandeur nature, ça vous le savez, je crois que même on en avait un petit peu parlé aussi dans le mug, sauf que ça risque de ne pas forcément être possible, du moins pas avec les êtres humains tels que nous les connaissons aujourd'hui. C'est une conclusion en douche froide à laquelle est arrivée une équipe internationale de scientifiques. La durée d'une mission vers Mars ne pourrait excéder 4 années sans mettre en péril l'existence des hommes et des femmes qui y prendraient part. Pourquoi? Bah oui, vous allez me demander pourquoi. C'est quoi le problème d'aller sur Mars? Ah bah le problème, c'est pas un problème psychologique, c'est pas un problème dans la capsule, c'est pas des choses comme ça. C'est un problème dû aux radiations cosmiques. C'est un problème qui est apparemment quand même connu depuis toujours, hein, que ça pourrait, bah, voilà, un peu comme des radiations, j'imagine. Alors, je suis pas expert, je suis pas science, je connais pas ces sujets-là, mais j'imagine, c'est une certaine forme de radioactivité. Donc, c'est vrai que si tu t'en prends trop dans le corps, bah, ça cause des gros soucis. Par contre, en fait, ce que l'étude a montré, c'est les 4 ans. C'est l'analyse de voir que c'est limité dans le temps à 4 ans. Au bout de 4 ans exposés à ces radiations, bah, les personnes peuvent mourir. Voilà, donc c'est un problème. Mars ne bénéficie pas d'une magnétosphère aussi efficace que celle de la Terre qui protège ses habitants de ces radiations. Les êtres humains envoyés y crapahuter ou construire des cabanes seront donc plus directement exposés à ces mortelles radiations, non seulement du Soleil, mais aussi majoritairement de corps célestes bien plus lointains. Et oui, je vous rappelle que si des gens parmi vous ont peur des ondes Wi-Fi, vous devriez avoir bien plus peur des ondes du Soleil qui sont... voilà, qui en fait vous blesse directement, quoi. Mettez-vous au soleil à 40 degrés en été pendant 3 heures, vous verrez, votre corps il va pas être content, vraiment pas. Et faites-le trop souvent et vous verrez que votre corps il va, il va lâcher. Bref, donc, oh putain, et dans l'article il y a marqué sur Mars et ça repart. Pas mal la transition. Les scientifiques de l'UCLA et du MIT, de l'Institut des sciences de la technologie de Kolkovo à Moscou et du German Research Center for Geosciences à Potsdam ont combiné des modèles géophysiques de radiation des particules et des modèles étudiant les effets desdits rayonnements sur les engins spatiaux et sur leur équipage de chair et de sang. Donc ils se sont rendu compte qu'effectivement il y avait une limite de 4 ans. Mais alors il y a quand même des solutions qui sont envisagées, notamment de recréer une magnétosphère protectrice autour de la planète ou créer génétiquement des êtres surhumains. Voilà les deux possibilités. D'ailleurs, les personnes dans l'ISS sont beaucoup plus exposées. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ouais. Mon ex a essayé, ça pique. Donc baladez-vous avec du papier aluminium sur la tête, ça arrange tout. Ah bah alors là, pour le coup, l'aluminium est vraiment efficace pour se protéger des ondes du soleil. Ça, clairement. Bah, en vrai, l'aluminium est efficace pour se protéger des ondes en règle générale. Maintenant, le truc, c'est que, enfin, scientifiquement, ça fonctionne. C'est juste que par contre, les ondes que vous prenez au cours de la journée, les ondes radio et tout ça, enfin voilà, il y a eu 46 milliards d'études et aucune n'a montré un danger véritable. Le plus irradié est Thomas Pesquet. Ah bah oui, tu m'étonnes, ouais. Est-ce qu'on connaît quoi? C'était quoi ton message? Merci Burberry pour ton abonnement, j'avais pas vu, excuse-moi. 4 ans, c'est pas énorme. Surtout que, je le rappelle, c'est 9 mois pour aller de la Terre à Mars en navette spatiale. Donc ouais, il y a un petit problème. Ça veut dire que t'as déjà 18 mois cramés pour l'aller-retour. Donc en gros, ça veut dire qu'il y a 2 ans pour faire des trucs sur Mars. Les ondes radio sont non ionisantes. Ouais, tout à fait. RIP à tous les singes qui vont être sacrifiés pour les tests. Ah. Melon Musk. Le soleil est plus dangereux. Bah oui, c'est ce que je disais, ouais, tout à fait. Est-ce qu'on connaît les effets à long terme? Ah bah les effets à long terme, c'est la mort. À moins que tu parles du soleil, parce que si c'est le soleil, bah c'est des cancers, c'est tout simplement. Hein. Trop s'exposer au soleil, mais beaucoup trop, voilà, ça déclenche des cancers. Ça, c'est quand même assez connu, cancer de la peau. Hein. Voilou. On va terminer avec justement la grosse affaire du jour, Proton Mail. Proton Mail. Je me demande, est-ce qu'on le ferait pas un peu en tartine? On va peut-être faire une petite tartine. Petite tartine Proton Mail. La tartine, c'est le moment de l'émission où on se focalise sur un article, on essaye d'en parler un petit peu plus. Bon, après, dans cette émission-là, on a parlé de pas mal de plein de choses. Mais c'est assez intéressant parce que c'est vrai que Proton Mail est dans la sauce. Proton Mail est dans la sauce pour, en fait, principalement un mauvais marketing. On va en parler. C'est la news que tu attendais. Bah écoute, on va en parler aujourd'hui. J'aime bien tes lunettes, Guillaume. Voilà, c'est dit. Ah bah c'est gentil, monsieur papa. C'est gentil. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans la tartine de ce Mug Now Tech. Et justement, on va parler de l'affaire Proton Mail. Hein. Ça a fait beaucoup réagir aussi sur Twitter. Je tweete très rarement, mais j'avoue que là, ça me touchait un petit peu cette affaire. Donc, j'en ai parlé un petit peu sur Twitter. Donc, ouais, un super article de France Info. C'est cool. Je tiens à le souligner. Qui a expliqué un peu l'affaire Proton Mail, qui a tout récapitulé. Globalement, je vais plutôt vous lire l'article parce qu'en fait, il est un peu long, mais il est bien expliqué. Donc, à la demande de la police française, Proton Mail, un service suisse de messagerie électronique chiffrée, a livré l'adresse IP d'un militant de Youth for Climate, ça veut dire la jeunesse pour le climat. Donc c'est une association militante, hein. Une décision qui choque pour un service qui a bâti sa réputation sur la sécurité et le respect de la vie privée. Une messagerie, entre guillemets, sécurisée, chiffrée et bénéficiant de la confidentialité suisse, ces slogans de Proton Mail, un service apprécié des militants et des militantes et des journalistes, ne semblent plus d'actualité après les révélations, lundi 6 septembre, de l'organisation communiste Secours Rouge. En gros, à la demande de la police française, Proton Mail a livré l'adresse IP d'un militant écologiste. Donc tout commence avec l'occupation. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ce militant ? Parce qu'a priori, il a fait quelque chose qui est illégal. Mais d'un autre côté, quand t'es militant, tu fais souvent des trucs illégaux. Donc bon, voilà, le débat n'est pas là. Donc tout commence avec l'occupation, en décembre 2020, d'un local d'un restaurant, vide depuis plusieurs années, dans le 10e arrondissement de Paris. Les occupants, un collectif baptisé L'Arche, au sein duquel on retrouve des membres de Youth for Climate, veulent protester contre la gentrification. En gros, la gentrification, c'est quand un quartier devient de plus en plus riche. Ça veut dire ça, gentrification, du quartier Sainte-Marthe, donc à Paris. Le propriétaire des murs, qui détient également le restaurant Le Petit Cambodge, connu parce qu'il a subi les attentats du 13 novembre, dépose plainte. Et le tribunal ordonne l'expulsion, effectivement, de ces militants, et la police a évacué les lieux. Mais l'enquête ne s'arrête pas là. Pendant l'occupation, les militants ont utilisé une adresse email ProtonMail pour coordonner leurs actions. Via Europol et les autorités suisses, les policiers français demandent à l'entreprise Helvet de fournir l'adresse IP liée à ce compte email de ce militant. Dans ce dossier, 7 personnes sont envoyées devant le tribunal correctionnel pour violation de domicile et seront jugées en février 2022. Voilà. Dans un communiqué signé par son PDG, Proton Mail assure qu'elle n'a pas eu d'autre choix que de répondre à cette demande. Proton a reçu une ordonnance de la part des autorités suisses à laquelle nous étions légalement obligés de nous soumettre. Il n'y avait pas de possibilité de faire appel. Elle précise qu'elle ne collecte pas par défaut des informations sur ses utilisateurs, mais uniquement, a posteriori, sur demande judiciaire. Ça la fout un peu mal. Elle assure qu'à aucun moment et sous aucune circonstance, le contenu des emails chiffrés ne peut être communiqué à la justice. Ouais, ça, encore heureux. Encore heureux que Et c'est pour ça que Proton Mail reste un bon service, hein, je vous rassure déjà maintenant. Proton Mail dénonce au passage la procédure française très agressive et les lois antiterroristes utilisées de manière inappropriée. Elle regrette que des outils juridiques créés pour des crimes graves soient utilisés de cette façon. C'est vrai que, bon, soyons honnêtes, je pense que sur ça on pourrait être d'accord, on est sur l'occupation d'un local vide. On n'est pas sur un attentat terroriste, hein, ou sur de la pédophilie. Donc c'est vrai qu'on peut se poser légitimement la question d'utiliser ce genre de technique d'investigation pour condamner des gens. Ça se discute, c'est une discussion. C'est une discussion juridique, morale, complexe. À aucun moment nous ne savions que les utilisateurs visés étaient des militants du climat. Nous savions juste que la demande judiciaire nous était parvenue par les procédures réservées aux crimes graves. Donc voilà, en fait c'est le mot grave qui pose question. Bref. La messagerie suisse, qui se définit elle-même comme militante, annonce qu'elle va clarifier sur son site ses obligations... Ah ouais, messagerie suisse qui se définit comme militante. Ouais, ça la fout mal, ouais. Annonce qu'elle va clarifier sur son site ses obligations légales en cas de demande judiciaire et émet quelques recommandations pour les militants qui utilisent son service, en particulier d'utiliser le réseau Tor, qui permet d'anonymiser complètement sa connexion pour accéder à sa messagerie. Une lecture des faits contestée par Mathieu Audibert, officier de gendarmerie et spécialiste de cybercriminalité, qui relève sur Twitter que cette demande française n'est que la stricte application du code pénal et de la convention de Budapest sur la cybercriminalité. Donc ça, c'est un tweet de Mathieu Audibert, qui dit... c'est qui Mathieu Audibert ? Attendez que je vous... c'est l'officier de gendarmerie, très bien. Qui dit « Tous les textes appliqués ici sont publics et en procédure, cela n'a rien à voir avec les lois françaises antiterroristes comme le soulève l'entreprise. C'est du droit commun régissant à l'obtention de preuves numériques. » Donc il y a une espèce de débat. Est-ce qu'on est dans une procédure antiterroriste ou pas ? L'officier de gendarmerie dit que non. Proton Mail dit que oui. Donc il y a même un espèce de débat là-dessus. Après, Alexandre Archambault, c'est le gars, je crois, qui avait été invité par. Il me semble qu'il n'avait pas été invité par. Merde. Underscore, demi-code, il me semble. Son nom me dit un truc. Mais en tout cas, c'est un avocat à la cour qui lui aussi confirme ce que dit l'officier de gendarmerie. Donc est-ce que c'est ProtonMail qui exagère ce qui s'est passé? Peut-être. C'est l'avocat de Free. Ok. Ok, je sais pas pourquoi j'avais déjà entendu son nom. Bref, ces révélations ont suscité un certain émoi chez les défenseurs des libertés numériques. Bah, tu m'étonnes. Sur Twitter, une journaliste américaine de Mashable a vertement reproché à l'entreprise de n'avoir jamais dit que la collecte de l'adresse IP était une possibilité. Pour moi, c'est exactement ça le problème. D'ailleurs, je vais retourner sur mon Twitter parce que je vais vous montrer le tweet qui fait que c'était quand même un petit peu questionnable. Regardez. Voilà. ProtonMail avait cette façon de communiquer. Ah non, c'est Alex Archambault que je connaissais. C'est peut-être un homonyme ou son frère, je ne sais pas. Bref, regardez la promotion que faisait ProtonMail. ProtonMail, sur leur page, disait: aucune adresse électronique ou numéro de téléphone n'est nécessaire pour créer votre compte. Aucun log d'IP ne peut être lié à votre nom d'utilisateur. Donc effectivement, quand tu marketes ton produit comme ça, et que derrière tu te rends compte qu'il livre des informations à la justice, des informations de militants, ça la fout un peu mal. Et en fait, c'est ça, c'est pour ça que ProtonMail est dans la sauce. Interrogé par Reporter, l'association de défense des libertés numériques, la Quadrature du Net, je vous en parle souvent, super association, invite le milieu militant à réfléchir profondément à la manière dont ils utilisent les outils numériques pour ces actions. Il faut, selon Arthur Messot, juriste au sein de l'association, désapprendre à se croire en sécurité sur Internet, même s'ils pensent avoir de bons outils. Voilà pour le récap de l'affaire ProtonMail. Affaire un peu complexe, honnêtement, mais c'est vrai que voilà, ProtonMail a merdé. ProtonMail, si ils ont été oubliés. Enfin, en fait, ils ont réussi à avoir des informations et des logs d'adresse IP, alors qu'ils vendaient qu'ils ne le faisaient pas. C'est compliqué. Et c'est vrai que c'est un outil utilisé par beaucoup de militants, ProtonMail. Ouais. Bof, en fait. Maintenant, c'est vrai qu'en général, quand vous êtes militant, il vaut mieux utiliser des solutions comme Tor pour masquer votre IP, etc., etc. Mais ça la fout un petit peu mal. Si vous êtes militant, chiffrez vos disques durs. Ouais, mais autre débat là, Guillaume. Autre débat. Non, ils loguent pas a priori. C'est suite à la demande de la justice suisse qu'ils ont pu loguer l'adresse IP du compte. Ouais, mais ça veut dire que, tu vois, c'est quand même mensonger. Parce que ils disent vraiment: aucun log d'IP ne peut être lié à votre nom d'utilisateur. Donc, en fait, ils ont la capacité technique de. Bon, enfin, ça, oui, c'est normal qu'ils aient la capacité technique, mais c'est un double discours. C'est un double discours. La loi serait donc différente en fonction de qui l'enfreint. Je suis en total désaccord. C'est pas la question, Stéphane. En fait, c'est le débat du militantisme. Ce qui est légal aujourd'hui n'est pas forcément moral. Et en fait, au cours de l'histoire, comment te tourner ça? J'avais vu une image qui était intéressante sur Twitter. Tu peux par exemple très bien prendre l'exemple des femmes qui ne pouvaient pas voter. Et en fait, tu as eu des militantes qui ont milité de façon illégale pour que leurs droits de vote soient reconnus. Là, tu as des militants pour le climat. Alors, la cause est moralement juste. Après, ça ne justifie pas tout. Tu peux pas tuer des gens pour le. Tu vois, enfin, il y a des limites à ne pas franchir. Mais tu vois, le débat est plus complexe que juste. C'est illégal, donc c'est pas bien, et donc on chope leur IP. C'est compliqué. C'est compliqué. Tu vois, tu peux très bien. Je veux pas prendre d'exemple un peu cliché, mais tu peux avoir l'exemple de l'esclavagisme aussi, par exemple. T'as plein d'exemples de choses comme ça qui étaient légales à une époque, mais moralement dégueulasses. Tu vois. Le scandale, c'est de promouvoir un service qui fait de fausses promesses. Alors maintenant, attention, tempérons un peu les choses. ProtonMail reste, mais 46 milliards de fois mieux qu'un mail Google. Mais alors vraiment, mais à des années-lumière. Parce qu'ils ne font pas leur business sur la vente de vos données privées, ils ne scannent pas vos mails, etc., etc. Disons que si vous n'êtes pas militant, si vous avez une vie classique avec de grands guillemets, c'est mieux d'être sur ProtonMail que sur Gmail par exemple, clairement. Maintenant, c'est vrai que c'était un service utilisé par beaucoup de militants, c'est ça qui fait chier. C'est ça qui fait chier et qui fait que beaucoup de gens se sont sentis trahis. Posteo et Tutanota dans tout ça, c'est une bonne question. Moi, je suis chez Posteo, mais je les ai pas pris pour forcément un respect turbo parfait de la vie privée. Je les ai pris parce que je sais qu'ils ne loquent pas mes informations pour faire de la pub. Voilà, donc c'est pour ça que je suis chez Posteo, parce que je trouve que le service est simple à utiliser et ils vendent pas mes données. Voilà. ProtonMail chiffre les messages, tout à fait. Bah d'ailleurs, la preuve, c'est que les messages ne sont pas lisibles. L'État va pouvoir enfin débarrasser ses pouilleux de la propriété. Quoi ? De ses pouilleux de la propriété d'autrui qui se joue de l'État de droit. Ouah, on n'est pas d'accord, Stephen. C'est pas grave, je pense que le débat est plus complexe que ça. Le débat est bien plus complexe que ça. Je pense pas que tu peux traiter des militants pour le climat de pouilleux. Tu vois, je pense que le déjà n'importe quelle personne a le droit au respect, même une personne que tu détestes. Je pense qu'elle a le droit au respect. Infomaniac, ouais, j'aime pas le nom Infomaniac. Je trouve que ça fait très jeu vidéo. Un simple VPN fonctionne très bien. Tor, c'est juste un assemblage de VPN, pas besoin de forcément passer par là. Bah, Tor a quand même un fonctionnement qui fait le fonctionnement en oignon, qui fait que tu masques quand même beaucoup mieux les choses. C'est surtout le fait qu'une loi antiterroriste ait pu forcer la main de ProtonMail qui me dérange en fait. Après, c'est ce que ProtonMail dit. Est-ce que c'est la vérité ? Compliqué, parce qu'apparemment l'officier de gendarmerie dit que c'est pas le cas. Donc un petit peu compliqué quoi. Voilà. Perso, je suis chez Disroute. Ah oui, j'en ai entendu parler de Disroute, ouais. Je les encourage à continuer leur boulot qui est d'héberger des services open source, ouais. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi j'ai plein de messages ? Que se passe-t-il ? Oh mon dieu. Ok, très bien. Je capte pas le titre. En quoi ProtonMail, c'est un drama ? Non, en fait, le Pouin, tu dois être nouveau sur le mug. En fait, le mug dans notre tête, on a le titre du stream. Et ensuite, on a des hashtags, des news du jour. C'est vrai que j'aurais pu peut-être séparer avec... Enfin, d'habitude, on le fait pas. Mais j'aurais pu séparer comme ça. Regarde, le titre va être mis à jour. Voilà. En fait, c'est le ProtonMail, le drama. Tout court, le titre du stream. ProtonMail, c'est open source. C'est une bonne question. Je crois que oui. Je pense qu'un service comme ProtonMail doit être open source. Hein. Ouais, open source. Ouais, l'appli... Ouais, ProtonMail is open source dès 2015, ils ont fait. Oui, ça me paraît assez cohérent. Hein. Oui, la justice peut demander à ProtonMail de conserver et de communiquer des informations techniques relatives aux utilisateurs de ses services. Ouais, donc la Suisse a bien un accord de coopération avec Europol. Voilà. Bref. Débat compliqué. Disroute utilise Nextcloud, c'est pourquoi je les adore. Ok, je savais pas du tout. Je savais pas du tout. On va voir Disroute. Ouais. Mais c'est vrai que le débat du militantisme est un débat compliqué et intimement lié au monde du libre, au monde de la vie privée. Il y a beaucoup de gens qui essayent de faire évoluer la société. Alors des fois dans le mauvais sens du terme, mais des fois aussi dans le bon sens du terme. C'est le militantisme qui fait que les sociétés évoluent aussi. Tor reste quelque chose à utiliser avec énormément de pincettes et de connaissances. L'anonymat qu'il fournit ne protège pas du tout. On est d'accord. Bref, voilà pour la tartine. On va passer à la cerise sur le croissant. Pas de sponsor pour ce mug. Hein. Nous n'avons pas de sponsor actuellement. Mais les meilleurs sponsors, bien sûr, bah c'est vous. C'est vous. Et je vous le rappelle, c'est le September. Vous pouvez nous soutenir sur Nowtech. Je vais tout de suite écrire September. Contribuer plutôt. Vous pouvez nous soutenir de plusieurs façons. On est 7 sur Nowtech. Les contributions permettent de payer les salaires. Les contributions permettent aussi de dire merde à certaines marques. Tout simplement parce que ça nous évite d'accepter tout et n'importe quoi en sponsor. Hein. Je vous rappelle par exemple Karina est en CDI. Enfin, il y a du monde qui bosse autour de Nowtech. On a Dina qui est en prestation, enfin en prestataire et voilà. Et tout ça bien sûr coûte de la moula. Et merci que Vaudette Vermax et Bourzouf Et donc, effectivement, ben, on a besoin de sponsors aujourd'hui pour faire avancer la boutique. Mais le problème, c'est que ben, des fois, il y a des propositions de sponsors qu'on ne veut pas accepter. Et vos contributions, elles permettent justement d'avoir une plus grosse marge de manœuvre pour nous, pour ben, pouvoir dire à certaines marques, ben, non, ton produit, il est nul, on va pas le mettre en avant, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à nous soutenir. Vous avez trois possibilités. Le Patreon, qui est, on va dire, la solution peut-être intéressante pour ceux qui ont peut-être des budgets un peu plus petits, des étudiants. Voilà, ce genre ce genre de comment je peux dire? Enfin, avec ce genre de budget-là. Twitch, avec le bouton s'abonner. L'avantage de Twitch, c'est que vous avez un... Merci Brinky, merci beaucoup. Vous avez avec Twitch bah, les emotes, hein, notamment la magnifique emote du mug animé, qui est incroyable. Et en fait, et surtout, contribuer, c'est intéressant pour vous aussi, c'est pas intéressant que pour nous, parce que vous avez accès au Discord de la communauté, on fait plein de discussions sympas, vous avez le vide-grenier. Donc le vide-grenier, c'est quand même cool, parce que c'est ce que je vous ai dit au début du stream, mais sur le vide-grenier, actuellement, il y a pas mal de produits qui sont en vente. Vous avez des écouteurs sans fil, vous avez un Pixel 4 à 5G, vous avez un Pixel 4 à tout court, vous avez un OnePlus, enfin vous avez deux OnePlus, vous avez des Motorola, vous avez une Apple Watch série 4 d'occasion, qui est en bon état, elle a une petite rayure, mais elle fonctionne bien. Vous avez une tablette de Samsung, donc voilà, vous avez pas mal de produits. Il suffit juste de, quand vous êtes sur le Discord, vous mettez une petite main en l'air, comme ça, et vous cliquez sur l'emoji qui est sous les produits, et ça nous dit si vous êtes intéressé par un produit, et si on peut faire du main propre à Paris, bah, ça nous arrange. Voilà. Le Pixel 4a 128 Go est réservé. Ah bah Dieu, ça part direct. Ça part. Voili, voilou. Mais en tout cas, merci pour vos trois subs là. Ça régale, c'est très gentil. Et n'hésitez pas à aller sur Patreon. On est combien sur Patreon d'ailleurs? Patreon.com/nowtech. Je crois qu'on est pas mal, hein. /nowtech. Et vous avez accès au jeudi contributeur qui sera demain avec Jérôme d'ailleurs et moi. On est à 350 contributeurs. Merci à tous, c'est chouette. Merci beaucoup. Voilà, nous on avait envie sur le Patreon de faire quelque chose d'accessible à tout le monde. C'est pour ça que Patreon, vous pouvez nous soutenir à partir d'1 € par mois. Moi j'ai envie de vous dire, pour tout le contenu gratuit qui est produit, que ça soit sur YouTube ou sur Twitch, franchement 1 € par mois, c'est rentable. Et nous c'est vraiment très important pour nous. Voilà, je suis Patreon mais pas sub, vous pouvez m'offrir un sub. Ah, il y a un Cabri Kappa, trop bien, je savais pas, il est trop bien. Bref. On va terminer le stream avec une petite cerise sur le croissant, une petite news anecdote assez marrante. C'est parti. Et on va parler, surtout c'est cool parce que demain Jérôme revient de vacances avec le Z Flip 3 qu'il aura bien éprouvé. Il était en Italie, je crois, Jérôme, qu'il aura bien éprouvé, il aura fait des photos, il aura fait des choses, mais il ne savait pas, et ça c'est incroyable, qu'en partant en Italie, eh bien, il avait la possibilité de lancer des applications depuis le petit écran du Galaxy Z Flip 3. C'est des bidouilleurs sur XDA qui se sont rendus compte qu'on pouvait, je trouve ça incroyable, qu'on pouvait lancer des applis directement sur le petit écran du Z Flip 3. Alors attendez, parce que j'ai vu des gens faire une vidéo et je voulais vous montrer la vidéo. Alors attendez, est-ce que c'est ça? Non. Ah mince, je croyais qu'il y avait la vidéo dans l'article, mais là je la retrouve pas. Je la retrouve pas, pardon. Donc ouais, il a balancé un petit lien sur GitHub pour que vous puissiez aller installer ça si vous avez un Z Flip 3. Mais je trouve ça hyper marrant parce que ça veut dire aussi qu'il y aura peut-être la possibilité de faire des espèces de widgets personnalisés, des choses comme ça. Donc c'est assez rigolo. Alors attendez, je vais essayer de vous trouver une vidéo pour vous montrer ce que ça donne. Galaxy Z Flip 3, je vais aller sur YouTube. Mais je trouve ça hyper drôle. Galaxy Z Flip 3, app on front screen. XDA, je vais taper ça. Je pense qu'on va le trouver. Ah si. Ah bah tiens, il y a un gars qui a déjà fait une vidéo. Tiens, regardez. Voilà. Il y a un gars qui a déjà fait une vidéo où il vous montre... Attends, je vais améliorer un peu la qualité quand même. On va se mettre en 720. Là, vous voyez bien. Ouais, c'est bon. Regardez. Donc là, il y a ces notifications, mais ça, on s'en fout. Et juste après, Je crois qu'en fait, il y a une espèce de petite appli. Il y a un petit widget qu'il faut rajouter. Cover screen. Hop. Alors. C'est ça, non? Z Flip Launcher. Ah, c'est ça. Voilà, Z Flip Launcher. Ok. Il active le Z Flip Launcher. Et voilà, c'est ça que j'avais vu. Là, maintenant, on voit le truc. Donc, en gros, c'est ça. Et là, vous pouvez lancer n'importe quelle appli, justement sur ce petit écran. Alors, évidemment qu'il y a plein d'applis qui vont marcher très très mal. Mais je trouve ça hyper drôle. Je trouve ça hyper génial. Alors, qu'est-ce qu'il va lancer, par exemple? Tiens, Netflix. Incroyable. Juste incroyable. Bon, là, ça a l'air de juste. Ah, si, ça marche. Ok. Et il lance une série Netflix sur le petit écran. Ah, oh, c'est exceptionnel. Trop marrant. Qu'est-ce qu'il lance aussi? Ah, mais il lance YouTube sur le petit écran. Mais donc ça marche. Ça marche, ça marche. J'ai vu quelqu'un lancer un jeu qui s'appelle Genshin Impact aussi. C'est marrant, mais est-ce vraiment utile? Oh, tu sais, quand t'es hacker, bidouilleur, des fois tu fais pas des trucs parce que c'est utile. Tu fais des trucs parce que tu peux le faire et que c'est marrant. Voilà. Il y a le son aussi. Je crois que t'as le son, ouais. Bah attends, il lance une vidéo à un moment. Attends. Ouais, non. Je sais pas. Je pense que t'as le son. Je pense. Certains diraient tellement inutile que ça devient indispensable. Exactement. Ça peut être utile pour de la navigation. Ouais, pour Google Maps, ça peut être utile en vrai. Ça fait un posteo à 2 € par mois. Ah oui, t'étais sur le truc d'avant. C'est utile tout simplement parce que c'est beau. Bah moi, je trouve ça trop cool. Honnêtement, je trouve ça très très cool et je voulais vous le partager. Je vous propose qu'on passe à la dernière partie de l'émission, les petits corn facts. Donc, si vous avez des questions tech, globales, eh bien, n'hésitez pas. C'est le téléphone que tu as en ce moment? Non, pas du tout. Moi, le Z Flip 3, bah, je m'intéresse en tant que testeur. Mais pas en tant que téléphone personnel, clairement pas. Non, non, moi c'est le Pixel 3 que j'ai en ce moment. Voilà, petit Pixel 3, dégooglisé bien sûr. Très 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 bien. Donc, voili voilou. Je viens de switch sur un Pixel 3 avec CalyxOS pour tester. Alors qu'est-ce que t'en penses, Edo TV? Moi je trouve qu'il tourne très bien CalyxOS sur le 3. Hein. Il tourne très 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 bien. Pourquoi toujours porter une casquette? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, en attendant que vous mettiez quelques petits messages, je vais regarder qui on pourrait raid. Alors, qui est en stream en ce moment? Domingo, Jean Massier. Ah, est-ce qu'on raiderait pas Jean Massier? Moi, j'aime beaucoup Jean Massier. Je regarde un petit peu. Petit peu d'autres personnes qu'évidemment qu'éventuellement on connaîtrait pas. Ouais, on va peut-être être Jean-Massi Acropolis après. Tu penses qu'ils vont sortir quand même Android 12 sur le Pixel 3? Je sais pas, c'est une bonne question. J'espère quand même. Tu es vraiment convaincu du téléphone dégooglisé pour une utilisation au quotidien? J'avais une expérience assez bof avec Lineage OS. Il faut que tu ailles voir ma vidéo, Benjamin. J'ai fait une vidéo longue en plus sur le sujet. Et oui, la réponse est oui, totalement. CalyxOS, c'est beaucoup mieux que Lineage OS pour une utilisation quotidienne. Donc oui, non, complètement. Tu préfères Calyx ou Graphene? Calyx. Graphene, c'est trop. C'est quand même chiant de ne pas avoir les services Google Play émulés en fait. Tu en penses quoi de iOS? J'ai pas aimé l'expérience. J'ai pas du tout aimé l'expérience de iOS. Vraiment, très intéressant cette vidéo, un grand bravo. Merci à toi, Stéphane. Merci à toi. Beaucoup de temps pour la préparer, beaucoup de taf, que ce soit en écriture, mais surtout un petit shout-out à, je sais plus si c'était Karina ou Dina, mais à l'un ou l'autre, parce qu'ils avaient passé beaucoup de temps sur le montage aussi, hein, sur les bérolls, sur le. Il y a beaucoup de boulot technique sur cette vidéo. Donc, un petit bravo à eux aussi. Voilà. Mais non, non, iOS, j'avais pas aimé l'expérience. Je trouve que. Enfin, je comprends l'idée. Ils ont voulu faire un truc très iOS. Mais en fait, ils auraient dû lancer Android, ils auraient dû laisser Android pur, ils auraient perdu moins de temps. Juste forquer Android et essayer de bien. En fait, iOS, ils ont mal géré le fait que tu allumes ton téléphone et on te propose pas de créer un compte iOS. Et j'étais là, mais. What? Genre, pour moi, si tu fais un système alternatif à Android ou à iOS, tu fais un écosystème complet. C'est ce que propose iOS. Mais le problème de iOS, c'est que tu arrives, si tu n'as pas de compte avant, tu t'es niqué. Voilà. Donc, tu es obligé de prendre un ordi avant. Enfin, l'onboarding est pas bien. Ah, qu'est-ce que tu dis? Graphene permet maintenant de sandbox les Google Play Services. Ah, c'est intéressant ça. Graphene, sandbox, Google Play Services. Voyons voir. Ah, intéressant. Je lis. Je vais avoir un peu de lecture. Il y a un mois en plus, c'est tout, tout frais. Super. Perso, iOS, c'était catastrophique. J'ai viré Bliss Launcher pour passer sur Launcher. Ouais, hein, non, non, mais iOS, bof, quoi. Effectivement, très bonne vidéo, j'ai essayé de suite. Le problème, c'est le manque de l'IA Google sur l'app photo, sur ses ROM custom. Moi, ça me manque pas. Tu vois, moi, ça me manque pas. Mais je comprends. Je comprends. De toute façon, il faut bien comprendre que la vie privée, c'est des sacrifices d'utilisation. Vous vous perdez en confort d'utilisation. Moi, je l'accepte, mais je sais que certains ne l'acceptent pas. Par exemple, moi, sur mon iPhone, il y en a qui, des fois, me critiquent en disant « Ouais, mais t'es sur un iPhone. » Sur mon iPhone, j'ai pas les photos iCloud par exemple. Hein. Genre, je désactive beaucoup de services iCloud hein, sur mon iPhone. Hein. Le seul truc que j'ai de connecté, c'est mes fichiers MyNote pour bosser sur Nowtech. C'est tout. De synchroniser. C'est le seul truc que j'ai sur mon iPhone. Sinon, je désactive tout. Je désactive tout parce que j'ai pas confiance en Apple pour ma vie privée. J'ai pas confiance à 100%. J'ai pas du tout confiance. Mais voilà, après, c'est un choix personnel. Si vous le faites pas, pas de jugement, vous faites ce que vous voulez. J'ai un iPhone 12 sans abonnement 5G, je suis chez Orange. Ils ont activé la 5G, j'ai un débit de 500 mégabits par seconde. C'est pas mal. Attends, 100 mégabits? Bah c'est bien 500 mégabits. Oui, je comprends pas ce qui va pas. Moi, ça m'a choqué que les photos des iPhones s'uploadent sur iCloud sans rien demander. Ouais, je crois que c'est le comportement par défaut. On peut pas... Ah oui, tu peux utiliser la Google Caméra hein, sur Calix. Hein. Moi, sur mon Pixel. Je double-clique, c'est la Google Caméra hein, qui est là. Hein. Bonjour à tous d'ailleurs. Je fais ça pour le focus. C'est la Google Cam hein, que j'ai. Hein. Que j'ai bloquée, après elle n'a pas accès à Internet, enfin tout est bien bloqué. Mais c'est la Google Cam. J'ai remarqué beaucoup plus de stabilité en désactivant certains services iCloud sur mon iPhone. Ah ouais? J'ai pas eu de différence. On perd en qualité photo sur Calix? Non, parce que sur Calix, tu peux installer la Google Caméra. Tu as trouvé où ta version de la Google Cam? Oh, je sais plus. Tape Reddit Gcam Pixel 3A ou Pixel 4A et tu vas la trouver. Tu vas la trouver. Je crois que c'était sur XDay Developer. De base, sur les ROM custom, on perd en qualité photo. Bah non, mais moi, c'est pour ça aussi. Je voulais garder en. Je voulais... Merde! Oh shit! Oh merde! Ah merde, le raid était un peu... Merde.